Bienvenue, si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. Autour de la table ce soir, Charles Consigny, Perico Legas, Florence Rouas, Olivier Vial et nous a rejoint Ulysse Gosset. Bonsoir à vous Ulysse.
Bonsoir Julie.
Éditorialiste politique internationale pour BFM TV. On va revenir ce soir sur le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Emmanuel Macron qui a averti sur le risque de voir l'Europe mourir ou du moins être reléguée face aux grandes autres puissances. En gros le message c'est tout dépend pour qui vous allez voter. Mais le risque c'est ça, c'est la mort de l'Europe. On écoute le président.
La lucidité et l'honnêteté commandent de reconnaître que la bataille n'est pas encore gagnée. Loin de là. Et qu'à l'horizon de la prochaine décennie, parce que c'est cet horizon-là qu'il nous faut saisir, le risque est immense d'être fragilisé, voire relégué. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir. Et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Ulysse, il a choisi de dramatiser le scrutin européen.
Oui, c'est une façon de lancer la campagne pour son camp, évidemment, qui peine. On l'a vu dans les sondages, la candidate de la liste d'Emmanuel Macron a du mal à percer. Et donc, il propose aujourd'hui, je dirais, une vision européenne. C'est une façon de dire... Adieu à l'Europe du 21e siècle et quelle Europe voulons-nous pour le 21e ? Alors c'est un discours avec le style conceptuel du président, hein. Par exemple quand il parle de l'intimité stratégique, on se demande ce que ça veut dire exactement, quand il parle de l'humanisme européen, etc. Mais il y a quand même quelques idées fortes. L'idée c'est que face à la Chine et aux États-Unis, donc les deux grandes puissances, une Chine... régime autoritaire, face à la Russie qui envahit l'Ukraine, face à l'Iran et à un Proche-Orient qui est menacé par une guerre régionale, quelle est la position de l'Europe ? Et comment l'Europe peut-elle survivre ? Ou est-ce qu'elle est condamnée au décrochage ? Un petit peu comme il y a ce risque pour la France et d'autres pays européens.
Et donc il a développé sa vision d'une Europe de la défense, et on va y revenir dans un instant, mais juste avant, Olivier Vial, on lui conseillait, ses conseillers lui avaient demandé d'être très concret, d'être pédagogique. Est-ce que c'est un exercice réussi ?
C'est surtout un exercice électoral. On l'a vu, évidemment, refaire un peu le célèbre couplet qui fait sur presque tous les sujets aujourd'hui, c'est « moi ou le chaos ». Et donc on a vraiment l'impression que sur ce sujet-là, il nous a rejoué ça avec « l'Europe va mourir », mais en fait, c'est pas l'Europe qui peut mourir. C'est sa vision de l'Europe qui peut mourir. Et je pense qu'effectivement, là-dessus, il y a un vrai enjeu. C'est qu'il y a peut-être d'autres visions de l'Europe qui peuvent se développer. Et c'est peut-être ces visions de l'Europe-là qui ont le plus de chances d'aboutir. Parce qu'il est isolé sur la scène française, mais il est aussi beaucoup isolé sur la scène européenne. Et donc, effectivement, je pense que c'est là-dessus qu'il aurait pu être un peu plus moins ambitieux et surtout moins... sûr de lui, comme il l'a été trop souvent, et comme il essaye encore de nous faire croire que soit c'est on vote pour lui et sa liste, qui est en difficulté, soit encore ça sera le chaos pour l'Europe.
Avec une autre stratégie qui est celle de parler uniquement de l'Europe, quand Jordan Bardella, qui disait et qu'on disait est à 15 points devant, lui a lancé sa campagne en parlant de la France.
Oui.
Est-ce que cette stratégie-là d'Emmanuel Macron, elle est intéressante ?
Mais Emmanuel Macron, dans un formidable numéro d'acrobatie et d'intellectualisme raffiné dont il est coutumier, a l'art de retourner la situation, c'est-à-dire qu'il a vanté des solutions et des dispositions qui sont totalement contraires à la doxa européenne depuis qu'il est président. Alors, les solutions qui ont été apportées par l'Europe sont celles que certaines personnes avaient dit, avaient prévenu, attention, on va dans le mur. Non, il faut pas protéger, il faut pas réguler, le marché, une acte unique, l'ouverture, libre circulation des marchandises. Les crises ont prouvé que c'était pas la solution, que ce soit le Covid, que ce soit l'Ukraine, que l'Europe n'existe pas, qu'elle a besoin de se consolider, qu'elle a besoin de se protéger. Et là, il a prescrit des solutions qui était interdite par la doxa européenne il y a encore quelques mois. Il a l'air de dire, c'est moi qui les mets en place, nous les avons utilisées. Vous les avez utilisées, les solutions.
Vous parlez desquelles ?
Contre les solutions, de protéger. Là, le thème, c'est en même temps de limiter l'hémorragie électorale de cet électorat, pas seulement qui va vers le RN, mais cet électorat patriote, conservateur, républicain, qui a compris que la Macronie, c'était vendre la France et l'Europe à la puissance américaine, à l'atlantisme. Maintenant, machine arrière toute, on va faire une suprématie européenne, une défense européenne, on va exister. Mais tout ça, c'est ce qui était prévu dans le traité de Rome, qui n'a pas été mis en place. On est rentré dans un attentisme morbide. Et aujourd'hui, le président de la République explique qu'on va faire marche arrière, que l'Europe va enfin... Il a dit en danger de mort. Mais pourquoi elle est en danger de mort ? Les anti-européens ne sont pas au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir en Europe, ce sont les ultra-européens qui ont toujours, depuis M. Barroso et M. Juncker, et aujourd'hui Mme von der Leyen, dit rien sans les États-Unis, rien sans l'OTAN, et c'est un marché unique, il faut ouvrir les frontières, et puis on sacrifiera nos industries, mais on pourra exporter les produits en Chine. Ça profite qu'à l'Allemagne. Là, il se rend compte de la réalité, et comme il a compris que l'électorat français fuyait cette théorie, parce que l'Europe, effectivement, pour l'instant, alors qu'elle aurait dû être, et elle sera la solution de l'avenir.
Et donc c'est un sursaut salutaire, d'après vous.
C'est un sursaut salutaire, mais dans une hypocrisie mortelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit, finalement, on va prendre les bonnes solutions. Oui, les bonnes solutions, on vous les a suggérées, vous n'en vouliez pas. Maintenant que vous avez vu que c'était les bonnes, vous les revendiquez comme étant les vôtres. Personne n'est dupe.
En tout cas, l'idée qui s'impose aujourd'hui, c'est que l'Europe doit être une puissance économique et militaire.
Eh ben...
et pour cela, il donne un certain nombre d'idées qui sont, c'est vrai, éloignées du quotidien des Français. C'est là où ça pêche un petit peu. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, l'Europe doit se réinventer parce qu'on est dans un monde de brut, on est comme sur un ring de boxe, et on peut pas se contenter de compter les points. Il faut aussi préparer l'avenir. Donc, là où l'Europe n'a pas réussi, et d'ailleurs il a dit, elle n'a pas tout réussi, loin de là, et donc il y a beaucoup de travail, mais par contre, à travers les crises, on l'a vu pour le Covid en particulier, quand l'Europe réussit à emprunter 800 milliards et finalement à vacciner 500 millions de personnes, quand face à la guerre en Ukraine, l'Europe réussit à avoir une unité pour acheter des armes et aider l'Ukraine, ce sont deux réussites qui donne l'exemple et qui permettent aujourd'hui à Emmanuel Macron, alors dans les difficultés que l'on connaît, de dire à sa candidate, Madame
Valérie Ayer,
qui a bien du mal encore une fois à trouver sa place dans la campagne, eh bien, il lui donne en fait des clés, un programme qu'elle pourra défendre d'ici le 9 juin, c'est-à-dire dans 45 jours à peine.
Dans 5 semaines, sur le plan militaire, une proposition. Qui est intéressante en tout cas, est-ce qu'elle est réaliste? On le verra, mais il propose de créer une sorte de bouclier antimissile, un dôme de fer à l'européenne. En gros, on écoute Emmanuel Macron.
Le paradigme nouveau en matière de défense, c'est une défense crédible du continent européen. L'Europe doit savoir défendre ce qui lui est cher, avec ses alliés, à chaque fois qu'ils sont prêts à le faire à nos côtés, et seul si c'est nécessaire. Est-ce que pour cela, il nous faut un bouclier antimissile ? Peut-être. Il nous faut bâtir ce concept stratégique d'une défense européenne crédible pour nous-mêmes.
Très concrètement, il veut dire quoi par là, Ulysse ?
Il veut dire que si on suit l'exemple de l'Iran et d'Israël, quand Israël a été attaqué par l'Iran, il y a eu une défense très, très efficace, c'est celle du dôme de fer. Pourquoi ne pas appliquer cette idée à l'Europe ? Vous souvenez de l'idée de la guerre des étoiles de Ronald Reagan, à l'époque on avait pensé que c'était de la science-fiction. C'est aussi un peu une idée pour l'avenir, hein, et peut-être un peu de la science-fiction. Mais le concept même d'avoir un bouclier antimissile pour se protéger, je sais pas, de la Russie ou de la Chine ou de je ne sais qui, c'est une bonne idée. L'idée, c'est que les Européens ensemble puissent se défendre. Aujourd'hui, si Poutine attaque la petite Lituanie ou la petite Moldavie, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a les capacités ? Est-ce qu'on envoie des troupes ? Ou bien est-ce qu'on n'est pas, si vous voulez, conduit à trouver d'autres systèmes de défense ? Alors, il y a le dôme antimissile, mais il y a aussi la cyberdéfense à l'échelle européenne. Enfin, c'est l'idée que dans cette Europe à construire pour demain, il faut qu'on soit unis et qu'on ait les moyens d'exister face aux géants que sont la Chine et les Américains.
Mais quand on a entendu justement Israël s'est défendu avec le dôme de fer, ça avait coûté très cher pour un territoire qui est quand même beaucoup plus petit que l'Europe. Ça voudrait dire combien de milliards à mettre en place pour avoir un bouclier comme ça ? Est-ce que c'est faisable avec un espace qui est des centaines de fois plus important qu'Israël ?
Avec les nouvelles technologies, on peut imaginer qu'on peut construire des systèmes électroniques de défense. C'est pas complètement exclu. Ça paraît difficile à mettre en place, mais pour moi, c'est quelque chose qui est faisable. Et parce qu'il y a en même temps une révolution à faire en termes d'intelligence artificielle, intégrer l'IA dans l'industrie, mais aussi dans la défense, et profiter de l'IA pour justement avoir des systèmes de défense plus sophistiqués. Donc il y a là aussi la volonté de dire l'Europe ne pourra s'en sortir que si elle met tous ses moyens en commun. Et l'idée forte, qui est elle aussi difficile à mettre en place, il faut le reconnaître, c'est de lancer un emprunt géant pour l'Europe.
Oh là là.
Mais comment on fait ? Aujourd'hui, comment on fait face au Google, Microsoft, qui dépensent des centaines de milliards de dollars pour développer l'intelligence artificielle.
Il faut
donner à l'Europe les moyens de construire son intelligence artificielle, de construire sa défense, d'avoir son industrie d'armement, plutôt que d'aller acheter ses armes aux États-Unis. Pourquoi ne pas financer, par exemple, la construction d'un char européen, par exemple, là, il serait temps, mais un avion européen. On commence à le faire avec difficulté avec les Allemands. Oui, mais on a 5 ou 6 avions européens. Il en faudrait un face au F-35 américain.
On a des chars européens.
Donc, l'emprunt qui pourrait être, qui paraît aujourd'hui impossible, il a marché pour le Covid. Pourquoi ne pas l'imaginer pour les industries de la défense?
Emmanuel Macron, il sait dépenser de l'argent. Ça, c'est un truc qu'il sait faire. Si chaque Français avait...
On en revient toujours à ça avec Charles.
Le même logiciel, mais c'est fondamental, c'est nous qui payons. Si chaque Français avait le même logiciel qu'Emmanuel Macron, chaque Français serait en faillite personnelle. C'est un ménage surendetté à lui tout seul, le chef de l'État.
Vous savez combien Joe Biden, le président américain, a débloqué pour l'infrastructure? 1900 milliards de dollars.
Élie, c'est pas la même caisse.
Mais l'Europe, c'est l'équivalent des
États-Unis en termes de population
et de budget. Non, mais je vais nuancer mon propos. Moi, je préfère des dépenses utiles, en effet, comme la défense, les choses indispensables, que ce qu'on a pu faire, par exemple, pendant le Covid. C'est vrai que c'était un tour de force d'arriver à faire ce grand emprunt, bien sûr. Fallait convaincre notamment les Allemands qui voulaient pas le faire, etc. Mais en même temps, ça fait qu'on est tout à coup un peu drogué à l'argent magique. Donc moi, ces histoires...
Mais là, en l'occurrence, vous dites que ça s'y prête.
Ces histoires, ça dépend des sujets. Je pense que le sujet de la défense, oui, ça s'y prête. Par exemple, la plupart des experts militaires considèrent qu'on devrait doubler à l'échelle française notre budget militaire et que même à court terme, il faudrait mettre 100 milliards d'euros si on voulait vraiment être efficace sur le plan de la défense. Vous savez qu'on envoie une quantité d'armes en Ukraine très faible, en réalité, par rapport aux autres pays. On envoie des armes de très bonne qualité, mais on envoie des très faible quantité. Donc moi, sur la logique, why not? Moi, je trouve que c'est une bonne logique. Je suis européiste convaincu. Je pense que simplement le problème qu'ils ont chez Macron, c'est qu'ils sont plus européistes qu'eux avec le jeune Glucksmann. C'est ça qui leur pose problème. Tout à coup, ils n'ont plus le monopole du discours pro-européen. Mais je me méfie en même temps d'un certain lyrisme qui parfois nous emmène un peu n'importe
quoi. En rappelant, cher Ulysse, que pour l'instant, la menace n'est pas extérieure. La Russie est agressive, elle est là. Elle n'a proféré aucune menace concrète contre le territoire européen ni contre les pays européens. Ils s'en défendent, ils attaquent pour l'instant à l'extérieur un pays qui n'est pas européen. Nous avons une menace
réelle. C'est sûr, on n'a rien à craindre de la Russie, Péricot.
Alors, laisse-moi finir ma phrase. On a une menace intérieure qui est l'islamisme, qui pour l'instant, lui, a tué des gens. Et met quelquefois des territoires, certains instants, à feu et à sang.
La Russie nous font une cyberguerre énorme, déjà.
D'accord, mais les morts aujourd'hui sont...
Ils essayent de déstabiliser toutes nos élections, de trafiquer toutes nos informations.
Oui, sauf que Charles Consigny, les morts que nous avons en Europe, ce n'est pas des morts avec des armes russes. Ce sont des morts avec des islamistes qui habitent chez nous, qui sont chez nous. Et si on veut un bouclier, je préférais qu'on ait d'abord un bouclier intérieur par rapport à cette menace qui est ici, qui est sur place, et qui ne va pas s'apaiser. Et bien sûr qu'on fera, le moment venu, un bouclier contre les attaques hypothétiques et potentielles de puissance extérieure.
Très important, notamment auprès de la DGSI. Il y a eu l'embauche de plus de 1000 collaborateurs au cours des 3 dernières années pour justement intensifier la lutte contre l'islamisme. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Au contraire, s'il y a chaque mois 2 ou 3 attentats qui sont déjoués, c'est parce que
le bilan est, malgré tout ce que vous dites qui est vrai, le bilan est quand même catastrophique.
Mais alors,
la menace est réelle et le gouvernement le dit en permanence. Je préfère qu'on se regarde là-dessus que
La menace, elle est concrète pour les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a un risque d'attentat projeté, comme on dit?
Je préfère qu'on regarde la lune de l'islamisme
européenne. On ne parle pas de la lutte contre le terrorisme.
Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Péricot, puisque précisément, par exemple, on sait que la Russie infiltre certains partis politiques français, comme le Rassemblement National, qui donne quand même beaucoup de signes de sympathie que moi je trouve suspecte avec la Russie, et elle infiltre ces partis. Pourquoi ? Parce qu'elle vise à l'affaiblissement de l'Europe comme union capable de se mesurer à la Russie. Donc en réalité, elle est très directement chez nous à essayer de nous affaiblir.
Je rappelle quand même qu'il y a un coordinateur antiterroriste au niveau européen et qu'il y a effectivement des échanges très importants entre les différents services allemands, français.
Oui, mais j'aurais voulu que le président de la République fasse aussi allusion à ça. À ça, il n'y a pas fait allusion.
Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous critiquez tous un peu tout le temps Emmanuel Macron, mais je trouve qu'au contraire, dans son discours, il est dans la ligne de De Gaulle qui disait gouverner, c'est prévoir.
Très beau discours.
Gouverner, c'est prévoir. Et c'est vrai d'anticiper les dangers, l'Iran, qui pour moi est le danger fondamental.
Ben voilà, ça oui.
Vraiment. Et tous ces, ces liens, finalement, tu parlais tout à l'heure, Perico, de l'islamisme radical en France, mais l'islamisme radical en France prend ses ordres auprès de l'Iran. Donc, si vous voulez, quand on entend Emmanuel Macron, oui, quand on entend Emmanuel Macron, il parle de la Chine, il parle de la Russie, il parle de l'Iran, et il dit aussi, on ne doit plus devoir notre sécurité exclusivement aux États-Unis. Donc c'est une façon aussi de dire, on doit être suffisamment fort,
indépendant et autonome. Son discours, comme d'habitude, est exemplaire. On boit ses paroles, on souscrirait.
Il y a une idée qui est très innovante et très intéressante, qui touche au nucléaire. Le président a de nouveau, et ça, on va voir comment ça se passe pour l'avenir, émis l'idée que le bouclier nucléaire, enfin la dissuasion nucléaire française, pourrait être élargie à l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, en cas de menace, avec les Britanniques...
Nous sommes la seule puissance nucléaire.
Avec les Britanniques, il a parlé des Britanniques, et pas simplement.
On les fait revenir.
Mais oui, on les fait revenir parce qu'ils ont l'arme atomique aussi.
Ils sont jamais partis d'ailleurs.
Et donc l'idée, c'est est-ce que on parlait de bouclier antimissile, et lui, il émet l'idée, je ne sais pas si c'est... comment dire, faisable, et si c'est conforme à la doctrine gaulliste sur le nucléaire. Mais le fait qu'il en parle à plusieurs reprises, il essaye de donner cette idée que la France et son arme nucléaire pourraient être un bouclier pour toute l'Europe. Mmh. C'est une façon aussi dépendre des États-Unis.
C'est quand même du fait que les États-Unis ont dit qu'ils se retiraient. Là aussi, réagit en guérissant et non pas en prévenant.
Beaucoup, Ulysse Gosset, voilà ce qu'on pouvait dire sur le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne.